direct, soit vous serez présent, mais via la technologie.
Effectivement.
Voilà, et donc ça sera une émission dossier. Bah écoutez, on vous souhaite une bonne semaine et puis on vous laisse avec la suite des programmes de Radio G. Tout de suite, c'est Imaginaire.
Vous êtes sur le 101.5, c'est la dernière émission d'Imaginaire pour cette 8e saison.
Cher Radio G.
On a fait mieux que Game of Thrones quand même, pour notre 8e saison.
Oui, parce que nous, on a déjà prévu de partir sur la 9e, on ne s'arrête pas en cours de route.
Voilà, on se retrouvera à la rentrée, même heure, même créneau, même adresse, sur le 101.5. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de rôle, The Troubleshooter, que j'ai essayé et qui sortira au mois de septembre. Jeu de rôle suédois, mais qui s'inspire de la bande dessinée franco-belge. Ensuite, justement, Julien reviendra sur une vieille bande dessinée d'aventure qui s'appelle Le Capitaine Corcoran. Pierre-Marie, tu nous parleras...
Oui, de la nouveauté de Myrtille Bastard, Annie.
Myrtille Bastard,
qui avait été multi-lauréat chez nous et qui avait sorti Loba chez Alter Real Edition l'année dernière.
Donc une habituée du salon imaginaire et aussi de nos anthologies. Ensuite, Bess nous parlera de Selene, l'héroïne de la série de films Underworld.
Ouais.
Et puis Romuald nous parlera du Dead Can Dance et le voyage. V-Sound sur le 101.5, Kind of Kinky, un morceau de 1965 que j'ai utilisé comme générique lors de donc, cette partie d'essai des Troubleshooters.
C'est un jeu de rôle pour enfants, non? Enfin, qui est à destination de jeunes, c'est l'initiation au jeu de rôle, non?
Je dirais que c'est un jeu de rôle familial, déjà parce que le thème, donc l'univers, c'est on va dire les aventures, style bande dessinée franco-belge,
Spirou,
assez rétro.
Ça.
Et puis, des règles assez simples aussi, avec un système de jeu qui m'a rappelé le basic system de l'appel de Cthulhu, c'est-à-dire que toutes les compétences des joueurs sont de pourcentage. Et au cours du jeu, alors... Les personnages en fait sont pré-tirés par contre. Alors je sais pas, pour le moment j'ai joué Cookie d'initiation. Je sais pas si dans le livre de base qui va paraître donc en septembre et qui fera 200 pages, il y aura moyen de créer son personnage.
Et là, tu parles du kit d'initiation, donc que tu as eu en avance. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent le récupérer?
Ouais, alors donc, en fait, l'histoire du jeu, c'est que Christer Sundelin, le créateur du jeu, qui travaille plutôt, j'ai l'impression, sur des jeux de rôle médiévaux fantastiques pour l'éditeur suédois Handgast, a eu l'idée donc de faire un jeu de rôle dans le style BD franco-belge. Donc vraiment avec un côté rétro, il voulait qu'une grosse partie du jeu se déroule en France et notamment qu'il y ait des personnages français. Donc il a fait appel à l'éditeur français Arkane Asylum, donc a déjà édité des jeux de rôle suédois, donc Tales from the Loop ou Alien par exemple. Et donc en fait le jeu a été financé par Kickstarter début juin là, avec donc une traduction prévue en suédois, en anglais, donc là c'est Modifus qui s'occupe de la distribution en anglais, et puis une traduction française donc, et une édition assurée par Arkane Asylum. Et on trouve, pour montrer un peu à quoi ressemblerait ce jeu de rôle, il y a eu un kit d'introduction qui a été mis en ligne en fait, donc on trouve PDF pour moi, et qui a été traduit notamment par Arkane Asylum. Donc vous pouvez le trouver sur leur site Arkane, donc Arkane avec un K et un H, Asylum, vous avez dans la rubrique téléchargement. Et donc le kit d'introduction fait, j'irai, une vingtaine de pages de règles, et puis il y a un scénario qui fait une dizaine de pages. Les personnages donc dans les pré-tirés ont des compétences améliorées, sinon toutes les compétences de base sont à 15% en fait.
D'accord. Ouais.
Et donc pour réussir une action en fait, vous faites un jet de dés avec un dé pour les dizaines et un dé pour les unités, et puis si vous faites en dessous de votre compétence, l'action est réussie. Et en fait, si ce jet de compétence vous sert à faire avancer quand même l'histoire, bon ça c'est un peu à la discrétion du maître du jeu, vous pouvez cocher une petite case, et à la fin du jeu, à la fin de la session, vous pourrez éventuellement faire un jet d'amélioration pour améliorer cette compétence. Voilà comment on évolue dans ce jeu, et ça ressemble beaucoup en fait au système basique qui était utilisé par Chaosium, et notamment sur l'appel de Cthulhu dès les années 80. Donc le jeu a un côté rétro, ça se passe en 1965 dans une Europe un petit peu uchronique, parce que par exemple les Français et les Japonais ont déjà été sur la Lune.
D'accord.
Et les personnages auront apparemment souvent affaire à la pieuvre, qui est une organisation
qui reprend le spectre, quoi,
de méchant, voilà, international, qui effectivement ressemble beaucoup au spectre de James Bond. Donc il y a un côté espionnage, aventure assez important. Et donc l'univers, en fait, je pense, peut parler à des enfants. Moi, j'ai joué avec mon fils qui a 9 ans et puis mon père qui a 60 ans. Tous les deux, bon, ont lu Spirou ou Tintin dans leur vie, donc ça, forcément, ça leur parle. Et aussi, en fait, comme dans ces bandes dessinées-là, il y a de l'action, mais il n'y a pas de violence. On va dire, il n'y a pas de mort. Vous pouvez tuer de sang-froid un personnage, si vous voulez, dans le jeu, mais ça va vous donner des malus, en fait.
D'accord.
Donc, il est plutôt recommandé, même quand on commence à perdre un combat, par exemple, de se laisser faire prisonnier et ensuite d'essayer de s'échapper pour rajouter des rebondissements. Et ça, c'est valorisé par des points de récit. Donc, des points de récit, on en a quelques-uns en début de partie. Et puis, on en gagne, notamment quand on se fait capturer, ou alors quand on fait une blague, une bonne blague qu'amuse l'assistance pendant le jeu, ou alors quand on fait un G double sur le chiffre des dizaines et le chiffre des unités pendant le jeu. Et ensuite, vous pouvez les dépenser pendant le jeu pour influencer un petit peu le cours de l'histoire comme ça vous arrange. C'est-à-dire, par exemple...
C'est la chance, quoi. Ça représente à peu près la chance.
Ouais, donc on peut forcer la chance en demandant au maître du jeu si, par hasard, le méchant n'aurait pas laissé tomber une arme par terre à un moment. Et en fonction, on va dire, de l'énormité du truc que vous demandez, vous aurez tant de points de récit à dépenser, quoi. Donc pour faire, c'est un peu aussi le... Comment on appelle ça? Deus ex machina. Oui. Par exemple, à un moment, si vous êtes vraiment trop dans la mouise, vous pouvez dépenser 5 points de récit et puis la police arrive à ce moment-là. Voilà. Pour vous sauver.
C'est le narrateur qui permet de sortir de la situation, quoi.
Ouais, donc c'est une narration un petit peu partagée, plus peut-être que dans certains jeux de rôle, mais c'est vraiment le maître du jeu qui a vraiment le droit de veto tout le temps sur le cours de l'aventure. Et donc, on a joué donc cette première partie qui s'appelle l'expédition Minos, qui entraîne les personnages à la poursuite de trafiquants d'art d'antiquité grecque, en fait. Mmh. Donc, ça fait voyager à Athènes, et puis après, on va sur les îles plutôt vers Santorin. Donc une aventure très classique, mais le Kickstarter promettait des choses quand même un peu plus fantastiques, notamment on pourrait apparemment avoir des dinosaures dans ce jeu.
Aller sur la Lune.
Ouais, peut-être. Et puis il y a un deuxième scénario qui est en ligne, mais celui-là qui n'a pas été traduit en français. Donc celui-là, on le trouve sur le site de Helmgast, l'éditeur suédois. Et celui-là se passe sous le Mont Blanc, en fait, où dès le début vous êtes prisonnier de la pieuvre, et en fait il faut s'échapper et arrêter une machine infernale. Voilà. Donc en fait, le financement participatif a permis de rendre en physique, en fait, sortiront en septembre le livre de base qui ressemble à une grosse bande dessinée, en fait, et puis une campagne en supplément qui s'appelle l'affaire du U-Boot. Donc il apparemment se termine dans un sous-marin coulé
des Allemands.
Voilà, de l'autre côté de la planète. Et aussi de financer l'écran qui va sortir, des passeports, en fait. Les fiches de personnages seront sur des passeports. Mmh. Et on peut aussi avoir donc des tampons.
Suivant les missions que tu as.
Voilà. Et puis aussi, il y aura des planches d'autocollants qu'on collera, si on veut, sur son passeport. Il y a aussi des dés qui ont été financés, forcément, dans un style un petit peu comics, un peu pif-pang-pao, je dirais. Et puis, aussi des cartes des villes. Donc, il y aura Berlin, Paris, Londres en 1965. Donc, ça laisse un peu, quand même, augurer de toute la suite des aventures. Voilà. Pour clore cette petite chronique, on va se réécouter une BO que j'ai utilisée aussi comme musique de fond pendant cette petite session. C'était la musique de Peter Gunn par Henri Mancini. Tu connais peut-être le thème.
Oui.
Donc c'était une série de détectives, en fait, qui passait sur NBC à la fin des années 50 aux États-Unis. Et on veut s'écouter un morceau de la BO. Voilà.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée d'aventure entre le tour du monde en 80 jours, Tarzan et le tigre du Bengale de Fritz Lang. Autant dire la crème de la crème en matière d'aventure. Il s'agit du Capitaine Corcoran, un récit d'aventure, vous l'aurez deviné, adapté par Fernando Fusco dans les années 1960 pour le magazine engagé Lisette. Non, je déconne. À l'époque, Lisette, c'est pour les jeunes filles modèles, propres sur elles. Alors, il ne faut rien attendre de transgressif dans cette bande dessinée en noir et blanc, ici partiellement colorisée, avec une monochromie qui fleure bon la nostalgie. Vous l'aurez peut-être deviné, mais l'histoire se déroule en Inde. Mais attention, pas l'Inde des cartes postales, non. L'Inde fantasmée du 19e siècle, telle que la concevait le romancier Alfred Assolan en 1867. Si jamais vous êtes intéressé, lisez son roman. Il est encore disponible après commande chez tout bon libraire qui se respecte. Capitaine Corcoran d'Alfred Assolan au Serpent à plumes. Mais qui c'est donc que ce capitaine Corcoran, me demanderez-vous, pour peu que vous écoutiez ma chronique ? Eh bien, c'est un marin intrépide, donc breton, qui n'a qu'une petite vingtaine d'années, mais qui a eu le temps de naviguer sur presque toutes les mers du monde, qui a traversé en long et en large l'Inde, pays mystérieux dont il parle plusieurs dialectes. Un breton mille borné qui a frayé du côté de Bornéo. Il est bien de son époque. Quand il a fait décharger par ses matelots sa cargaison, il prend des vacances. Et chez lui, vacances, ça rime avec chasse au tigre. Mais il sait déceler la noblesse chez l'animal et s'amourage d'une tigresse, sacré marin, qu'il baptise Louison et qui va l'aider à se sortir, lui, un maharaja et sa princesse de fille, de sacrés guépiers indiens, dont le moindre n'est pas la trahison d'un premier ministre qui veut prendre la place du maharaja et épouser la princesse. Le complot puissance 4 qu'on n'avait évidemment pas vu venir. Heureusement, la bande dessinée ne fait que 21 planches. Alors, pourquoi je vous en cause ? Peut-être parce qu'elle doit être vue comme une curiosité culturelle. Surtout parce que derrière elle, il y a un dessinateur issu d'une brillante école indienne, Fernando Fusco, qui va épuiser toutes les séries western de l'époque et même s'essayer à la SF avec Cosmos en 2200. Peut-être aussi parce que cette bande dessinée naphtalinée nous replonge dans une bonne vieille Madeleine Proustienne. Et c'était bien l'objectif en 2009 de l'association en deux mots Image Innée lorsqu'elle a réédité cette bande dessinée qui sortait à l'époque la même année que le roman au serpent à plumes. Alors, si vous avez l'esprit curieux et de la chance, essayez de la dégoter. Vous ne le regretterez pas. Après, vous avez le choix. Ou bien vous continuez dans la même veine et vous vous faites une séance glace-comédie devant votre petit écran avec Gungadin de George Stevens, un film un peu burlesque avec, excusez de peu, Cary Grant, Victor McLaglen, Douglas Fairbanks Jr. et Joan Fontaine. Ou bien vous relisez Lord Jim de Rudyard Kipling. Le capitaine Corcoran de Fernando Fusco, c'est un aventurier en mode Corto Maltese mineur, mais c'est quand même intéressant. Ne boudez pas votre plaisir d'imaginer exotiquement naïve et assurément sujette aujourd'hui à la vindicte populaire. I wanna be like him. Habab Doody. The swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you, choo-choo. You see it's true. An ape like me can learn to be human too.
You're part of the deal, cuz. Laid a secret on me of man's red fire.
But I don't know how to make fire.
Now, don't try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now, give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you.
Fire. What that scoundrel's after. I'll tear him limb from limb. I'll beat him out. Yeah. Well, man, what a beat. Will you stop that silly beat business and listen? This will take brains, not brawn.
You better believe it, and I'm loaded with both.
Will you listen?
Oh, yeah, yeah.
Now, while you create a disturbance, I'll rescue Mowgli. Got that?
I'm gone, man. Solid gone.
Not yet, Baloo!
Get mad, baby.
I wanna be like you.
I wanna
walk like you.
Like you. Doo woo woo. You see it's true. Someone like me.
Can't learn to be like someone like me.
Take me home, daddy. Can't learn to be like someone like you.
One more time.
Yeah, can't learn to be like someone like me.
C'était Louis Prima sur le 101.5, donc qui faisait la voix du roi Louis. Louis. Dans le livre de la jungle.
Une des meilleures musiques de jazz d'ailleurs de l'époque. Hein.
Ouais, alors, et d'ailleurs la BO du livre de la jungle, c'était les frères Sherman. Et alors ceux qui se sont abonnés à Disney Plus récemment, il y a quelques documentaires sur Disney Plus et notamment il y a un documentaire de 100 minutes sur les frères Sherman, donc qui étaient les compositeurs attitrés de Disney vraiment à l'âge d'or pendant les années 50-60. Bon, alors on va enchaîner Pierre-Marie sur une chronique de livres.
Annie, la nouveauté de Myrtille Bastard.
Myrtille que nous avons connue parce qu'elle avait gagné.
Elle avait gagné
deux fois d'affilée.
Antiquité et
notre concours de nouvelles.
Fil de l'eau où elle avait effectivement gagné notre concours de nouvelles. Et puis nous lui avons dit que elle n'avait plus le droit de continuer puisqu'elle passait trop de temps à gagner, qu'il fallait de la place à d'autres talents. Entre temps, puisque nous l'accueillons assez régulièrement, entre temps, elle a trouvé la maison d'édition Alteréal, maison d'édition Tourangelle, plutôt spécialisée en young adulte.
D'accord.
Et elle avait sorti l'année dernière Loba, dont je vous ai fait une chronique sur cette même édition, que vous pouvez trouver sur notre site imaginaire.fr. Loba qui était du young adulte fantastique, une des jeunes demoiselles faisant un doctorat, qui partait en Argentine et qui chassait le mythe du loup-garou et qui finissait par tomber amoureuse d'un de ses co-expéditionnaires.
Une fantastique contemporain.
Fantastique contemporain, tout à fait. Et là, elle est partie dans la fantasy qui tâche.
Ah.
Qu'est-ce qu'on appelle la fantasy qui tâche? Et bien c'est très simple, il y a une carte au début du livre. Il y a donc un nouveau monde. Tout est logique, il y a des créatures fantastiques, ça ne dérange personne. Il y a du surnaturel, ça ne dérange personne, c'est même plutôt normal. Et puis voilà, c'est de la fantasy qui tâche. C'est pas de la dark fantasy. On est sur de la low fantasy, ça reste quand même plutôt héroïque, plutôt bienveillante, légèrement moralisatrice. On va suivre un personnage qui s'appelle Guilhem, qui est un... À la base, qui voudrait être un troubadour, mais il n'a pas de chance, il est mal né, il est fils de roi.
Ah.
Donc, on l'a envoyé en mission pour en tant qu'émissaire, en lui disant bien que si jamais il réussit cette mission-là, il pourrait se consacrer à sa vie de troubadour, puisque il a beau être l'héritier aîné, il est boiteux, donc il ne peut pas aller au trône, ça sera son frère cadet qui le remplacera sur le trône.
Donc lui fera le fou pendant ce temps-là. Ouais.
Bah lui, il jouera du luth et apparemment, voilà. On explique qu'il a plutôt du succès auprès des femmes, ce qui lui convient tout à fait. De l'argent, des femmes et un peu de musique de temps en temps, que demander de plus? Sauf que voilà, pas de chance, son père meurt et son frère aussi. Et il se retrouve roi. S'ensuit alors pas mal d'aventures avec des créatures fantastiques, le tout sur une machination spirituelle, puisque nous apprenons extrêmement rapidement que quelques 60 ans avant le début de ce récit, il y a eu une grande guerre purificatrice qui a vu l'éradication des anciennes cultures liées à la déesse mère et de toutes les créatures fantastiques pour l'avènement d'une religion monothéiste qui pourrait s'inspirer du christianisme sur les heures sombres qu'on a eues. Alors, connaissant Myrtille, à mon avis, elle a pris en exemple ce qui a pu se passer sur la christianisation de la Scandinavie.
D'accord.
Où les chrétiens n'ont pas été les plus soft possibles. Mais même en Bretagne d'ailleurs on fait référence à la lyre, puisque notre Guilhem joue de la lyre, qui a été un instrument qui était interdit à la fois dans le bouquin et dans l'histoire, puisque c'est un instrument du démon, mais que la sonorité était tellement belle qu'on a fini par l'accepter et puis même en faire un instrument divin. Donc voilà. Donc c'est un roman. La question de la spiritualité est extrêmement importante. Il y a quatre royaumes dedans. Les royaumes des méchants étant sans aucun doute possible les Scandinaves, l'équivalent des Scandinaves. Une partie se passe en équivalent de la France de l'âge sombre du Moyen-Âge, donc 800-900 après Jésus-Christ.
D'accord.
Notre héros Guilhem vient d'un pays méditerranéen ou arabique, on ne sait pas trop, plutôt ibérique, un peu style espagnol. Et puis un quatrième royaume dont on n'a pas encore vraiment entendu parler, mais qui pourrait s'approcher d'une Allemagne, son empire germanique. Et entre ces quatre royaumes-là, il y a un royaume neutre qui s'appelle le Wyrd, qui se rapproche d'un mot qui nous a donné Wise en anglais, les sages. 9 sages qui gouvernent un pays franc et qui sont là uniquement pour gérer la paix entre ces quatre royaumes-là. Notre personnage, Guilhem, devient roi, se fait sacrer par ses 9 sages et va gérer une invasion de ces anciennes créatures fantastiques qui reviennent pour reconquérir les terres dont ils ont été chassés. Ce sont des créatures qui ne sont pas très très humaines. En tout cas, leur apparence le laisse penser, mais on ne sait pas s'ils portent une armure ou s'ils ressemblent vraiment à ça. La suite est dans le bouquin, bien sûr, vous allez le voir. S'ensuit donc une épopée avec 4 personnages, Guilhem en premier, 3 autres personnages, 2 femmes et un autre homme, donc 2 hommes, 2 femmes, la parité est respectée, qui vont les emmener dans les 4 royaumes suivant la machination, puisqu'on apprend que la guerre de la purification n'était pas ce qui est aussi saine et aussi sainte qu'elle pourrait laisser penser. Il y a un gros défaut qui m'a pris dès le départ, à peu près au 3e chapitre. C'est la place laissée aux femmes, que dans le fantastique m'énerve de plus en plus, où elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes décrites de la même manière et elles n'ont pas de nom à la base. Ce sont des corps sans nom, les femmes. Dans la description, on y trouve une femme aux hanches larges, aux seins plantureux et lourds, aux fesses rebondies, qu'elle y pige. Et assez rapidement, on en a une deuxième qui suit à peu près la même morphologie. Seule la couleur de la peau et la couleur des cheveux et des yeux changent un petit peu. Puis l'odeur, puisqu'il faut quand même un peu de sens derrière, mais la morphologie reste identique. Alors j'en ai parlé à Myrtille, puisque je la connais assez bien, pour lui dire écoute, il y a 2 défauts à ton livre, le deuxième c'est la couverture de ton bouquin, mais l'histoire était vraiment bien, mais la place faite aux femmes, je comprends pas, parce qu'en plus t'es une femme, enfin, c'est pas ton fantasme que tu écris, tu ne fais que reproduire un défaut qu'on trouve dans beaucoup de fantaisie. Et elle me répond non, tu es passé à côté de quelque chose, c'est ton personnage qui vous le montre comme ça. Ton personnage est un dragueur, il apporte beaucoup d'attention à la place faite aux femmes. Il va donc y avoir 4 bouquins, ce qui n'est pas dit dans le livre, mais il va y en avoir 4. 4 livres pour 4 personnages. Et la manière d'appréhender le monde au travers de l'écriture est à travers les yeux du personnage, puisque l'écrit se fait au premier personnage. Alors effectivement, surtout vu l'actualité actuelle, il aurait peut-être fallu avoir un autre personnage avec une autre manière de laisser la place aux femmes dans le bouquin, parce que les hommes sont tous décrits de manière suffisamment subtile pour que chacun des lecteurs puisse avoir sa propre vision du héros. Les traits de caractère sont bien marqués, mais après physiquement ils sont très succincts, on leur met la tête qu'ils veulent, à part des détails extrêmement précis. Par exemple, notre personnage est boiteux, ça on le sait, mais est-ce qu'il a des grains de beauté, est-ce qu'il a des hanches fermes, est-ce qu'il a des grandes mains, des choses comme ça, on n'en a rien à faire. Par contre, les femmes sont toutes décrites extrêmement précisément sur le physique, puis le reste est un peu laissé de côté. Et donc elle a voulu s'essayer à ce travail-là de la manière d'appréhender les autres personnes dépendait de la personnalité du héros.
Est-ce que du coup dans les autres tomes on aura la même histoire qui sera racontée par deux points de vue? Non, ça va.
Non, ça sera
être la suite.
Ça sera la suite. Il y aura forcément des parties de référence sur la première histoire qu'on aura eue. Mais non, ça sera la suite de l'histoire.
Bon, un gros bouquin, hein.
Un gros bouquin.
600 pages.
Le début du bouquin, la fantasy, je trouve qu'on tourne très vite en rond. Sur les trois premiers chapitres, où vraiment la partie de cet homme qui est forcément doué, qui est forcément plaît aux femmes, qui a tout pour lui, tout pour plaire, à part cette raideur dans la jambe gauche, au bout d'un moment, ça m'énervait. Dès le troisième chapitre, j'en ai discuté avec l'autrice. Et cette explication qu'elle a eue, et puis la manière dont elle a tempéré un peu mes propos en disant « t'inquiète pas, c'est fait exprès », fait qu'une fois que c'est passé dessus, le bouquin embarque. C'est un vrai bouquin de divertissement. On le lit, c'est top. Bon, et puis, je suis juste déçu par la couverture. Mais le deuxième tome, la couverture du deuxième tome disponible sur le site Alteria, la rattrape sans aucun souci cette couverture-là.
Et le deuxième tome donc, va sortir bientôt ou est déjà sorti ?
Sortira normalement fin d'année, début d'année prochaine.
Ok, et donc on enchaîne une musique avec donc ton choix, c'est Apache featuring Black President avec le morceau Dies Irae.
C'est ça, c'est un remix donc du Dies Irae du Requiem de Mozart avec du rap.
Ok, donc c'est peut-être aussi sur le 5.5.
It's that daily routine, but y'all knew that. Step up in the building asking who that. I'm doing new stats, I mean that new rap. It don't matter what you're doing, cause we do laughs. That's new facts, okay, calm down if you're scared. You ain't calm, I don't care. You can run around, get your gunner down. We blow it up in that air. Bomb bombs right there. On top of all of these stairs. Y'all down below, y'all sounding low. Keep looking up and just stare. This ain't no hide and seek. Find your seat. See, we came to take names. Y'all reminded me. Y'all can't lie to me. Too much pride to be. Just unleash another beast. It's just a side of me. Keep minding me. Like look now. That left fist get hooked now. My book's down. You shook now. Got more heat. Get cooked now. Like, oh man, I know them. Front stage, I showed them. Just another animal that's stepping out. Like, oh, I'm a beast. Where you at? On top of all of these stairs. Y'all down below, y'all sounding low. Keep looking up and just stare. This ain't no
beast. Where you at? I've been unleashed. What you doing? Take my teeth. Y'all can't fathom I'm a beast. Oh my God, I'm a beast. Where you at? I've been unleashed. What you doing? Take my teeth. Y'all can't fathom I'm a beast. Oh my God.
I'm a beast.
c'était donc Apache avec Black Prez dans Imaginaire sur Radio G. Pierre-Marie, quelques nouvelles du Salon Imaginaire ?
Eh bien, l'heure est venue de vous annoncer la grande nouvelle. Il y aura un Salon Imaginaire 2021. Il y en aura aussi un 2020.
Bon.
D'ici la fin de l'année, donc, nous allons faire un Salon Imaginaire en modèle réduit, puisque je vous l'avais déjà annoncé il y a 2 semaines. Je vais vous donner la date, histoire de vous donner quelques informations nouvelles. Et ça sera le samedi 24 octobre au Grenier Saint-Jean, c'est-à-dire le week-end pile entre les Angers Geek Festival et les Utopiales à Nantes. À cette occasion, nous allons remettre le premier prix Imaginaire, le prix Heyerdahl, première édition, que nous aurons le plaisir de remettre à Jean-Marc Ligny, en présence de Sarah Doc.
On aura aussi comme invité Cindy Canetvet.
Qui nous a fait l'affiche, tout à fait.
Voilà.
Et la liste n'est pas encore terminée, puisque le fait de ne faire le salon que sur une seule journée change beaucoup de choses.
Et puis on a décalé de 6 mois, donc on n'a pas forcément les mêmes dispos.
Tout à fait. Mais nous aurons le plaisir de recevoir des auteurs et des autrices et des maisons d'édition qui viendront, comme chaque année. Et puis des parties de jeux de rôle, le concours de cosplay et de costumes, c'est-à-dire que nous ouvrons le concours plus seulement au cosplay où il fallait créer soi-même son costume sur un personnage déjà existant dans le monde vidéoludique ou juste ludique. Et là, ça sera concours de costumes. Vous faites du grandeur nature, vous avez un costume dont vous êtes fier, vous venez avec et vous avez le droit de participer.
Ok, donc ce sera le samedi après-midi 24 octobre au Salon Kurnonski.
Alors le salon samedi toute la journée et le concours de cosplay samedi après-midi, ouais. Tout à fait.
Ok, on continue avec la chronique de Bess sur le 101.5
qui nous parle de Selene.
Get away from her, you bitch!
I know my value. Anyone else's opinion doesn't really matter.
Mary Poppins practically perfect in every way.
Spoilers.
Allez, aujourd'hui, direction le monde de la nuit. Celui qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, peuplé d'étranges créatures. Ce monde terrible et inquiétant pour nous autres pauvres mortels. Ce monde filmé en nuit américaine permanente avec un putain de filtre bleu. Ce monde qui a donné naissance à tellement de films inregardables. Je veux parler du monde des vampires.
Oh oui, cool, elle va défoncer Twilight, ça va être rigolo!
Eh bien non, par contre je vais défoncer Underworld, une saga de 5 films que je me suis fadée, je me demande encore pourquoi, mais qui met à l'honneur une femme, Selene. Alors je dis Selene, ça s'écrit S-E-L-E-N-E, mais les Américains le prononcent Selene. Oui, ça donne comme avec un accent québécois, du coup j'ai pensé à Céline Dion, toute la série. C'était assez perturbant, je vous l'avoue. Et donc Selene, et c'est une vampire de 600 ans. Elle a l'apparence d'une jeune femme vampire telle que le male gaze peut l'imaginer. Peau blanche, cheveux noirs, des formes où il faut, dessinées par une combi de cuir. Oui, une combi en cuir intégrale avec un corset par-dessus. Je plains l'actrice Kate Beckinsale qui interprète notre héroïne, ça devait pas être drôle tous les jours sur le plateau. Après, peut-être que les vampires n'ont pas de problème de peau, après tout, j'en sais rien. Qui suis-je ? Selene vit dans un monde où, loin des humains, la guerre fait rage entre les vampires et les lycans. Alors ça, c'est vieux comme le monde. Et notre vampire, elle aime pas trop les bêtes à poils car ils ont tué sa famille. Elle est d'ailleurs recueillie par un vampire, un grand ancien nommé Victor, qui en fait sa fille. Depuis, elle fout sur la gueule au loup-garou dès qu'elle en croise. Elle est plutôt belliqueuse, elle est rebelle, elle ne respecte pas du tout l'autorité de son chef de clan, elle n'en fait vraiment qu'à sa tête, c'est une vraie tête de mule. Mais là où ça devient vraiment le bordel, c'est qu'elle rencontre Michael, un humain qui serait le dernier descendant de Corvinus, le père légendaire des loups-garous et des vampires, faisant de lui une espèce d'hybride. Et là, alors que le mec est une endive de premier choix, elle tombe amoureuse. Et puis après, elle apprend que Victor a tué sa famille, c'était pas l'élican. Du coup, c'est la rébellion totale. Et elle fuit avec l'ami Michael après avoir tué Victor de ses propres mains. Car oui, elle sait se battre et plutôt bien la petite dame. Donc elle tue un grand ancien. Nos amoureux sont alors traqués par les vampires et vont faire face à un autre grand ancien nommé Marcus, que Selene finira par tuer lui aussi. Ah oui, qu'est-ce qui se passe aussi ? Elle boit le sang de Corvinus, ce qui lui fait passer un niveau. La voilà insensible au soleil. Mais elle et Michael vont finalement se faire avoir par les humains. Je ne sais plus comment, je dois dire. Mais bon, ils sont prisonniers. Et 12 ans plus tard, le problème, c'est que les humains finissent par se mêler de la petite guerre. Donc il tue les vampires et les lycans sans distinction. Et Céline, qui a été cryogénisée, se réveille et découvre qu'elle a une fille. Allez, bam! Et l'endive Michael a décidé de ne pas continuer l'aventure. On comprendra qu'il a été cryogénisé aussi, mais lui a disparu. Du coup, Céline, elle a son petit cœur de brisée. Mais c'est pas grave, parce qu'elle a une fille à protéger maintenant. Une fille avec des pouvoirs surpuissants d'ailleurs. Alors le fait qu'elle soit mère ne change rien au personnage, ça ne le fait pas avancer d'un iota. Céline gagne un autre niveau, avec son sang, elle ressuscite un autre vampire. Alors arrivé au cinquième, oui j'ai bien dit cinquième film, Céline est toujours traquée par tout le monde, mais pas pour elle cette fois, c'est pour mettre la main sur sa fille. Alors pas de bol, elle ne sait pas où elle est. Voilà. Comme ça, c'est simple. On évacue la maternité, on évacue la gamine de l'équation. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors, je vous passe les aventures dont on se fout. Oui, alors je rappelle que j'en suis à 5 putains de films. Hein. Donc, Céline, qu'est-ce qui se passe? Elle meurt, puis elle est ressuscitée grâce à un espèce de voyage initiatique dans la glace. Voilà, un autre niveau de gagner pour notre personnage. On se croirait dans un jeu vidéo. Et puis, finalement, les vampires l'acceptent et font d'elle une grande ancienne, une aînée. Voilà, pour quelqu'un qui a du mal avec l'autorité, devenir l'autorité suprême des vampires, ça manque pas de sel quand même. Donc 5 films, enfin 4 parce que le troisième est un préquel, donc on va le laisser de côté, 5 films pour en arriver là. Une vampire en combi cuir qui se bat, ne sait pas montrer d'émotion et qui passe de paria à chef. Le tout avec une actrice plutôt médiocre, des films bleus qui durent 1h20 mais t'as l'impression qu'ils font le double, et des effets visuels dégueux. Alors je vous ai raconté 4 films en quelques minutes, et je vous ai dressé un portrait somme toute sommaire de leur héroïne. En même temps, il n'y a pas grand-chose à raconter. Hein. On n'arrive pas à s'attacher à ce personnage. On pourrait avoir de l'empathie, hein, vu son histoire personnelle, mais pff, non, la sauce ne prend vraiment pas. Son histoire d'amour, elle n'a aucun sens. Et puis elle est cheatée d'un film à l'autre, on ne lui connaît pas de faille. On sait bien qu'à la fin, elle gagnera, et on sait que si elle est en danger, il y aura toujours un mec pour venir la sauver. Tout est sans surprise, sans saveur. C'est super dommage. Notre Céline aurait pu être bien plus... Elle aurait pu être plus complexe, plus faillible, et surtout avec des émotions. Pas 3 larmes quand Michael n'est plus là. Enfin bon, je vais pas m'énerver. Je vais même finir avec une petite note d'humour. Parce qu'après tout, moi je me suis regardé 5 films, j'ai souffert 5 films, donc vous pouvez bien souffrir 3 minutes. Alors ouvrez grand vos oreilles, car je vous offre Céline. Céline Dion avec I'm Alive.
Wings to fly. Oh, I'm alive. Yeah. When you call on me.
processus créatif est propre à chaque auteur. Quand certains ressentent le besoin de créer l'architecture détaillée de leur livre avant de se lancer dans l'écriture, d'autres posent les premiers mots sur le papier sans savoir quel chemin leur imaginaire arpentera. Parmi les différents rituels, il en est un qui est très répandu chez les auteurs de l'imaginaire, écrire en musique. L'écrivain Jean-Marc Ligny, à qui l'association Imaginaire a décidé de remettre cette année le premier prix Ayardal pour l'ensemble de son œuvre, est de cela. Si vous êtes des fidèles de l'émission, chez ma mère, vous savez que j'ai déjà dédié une chronique à Jean-Marc Ligny, mais c'est pas grave. Jean-Marc Ligny a même publié un roman en 1994 intitulé « La mort peut danser » qui rend hommage au groupe Dead Can Dance. Lisa Gérard est la voix représentative de ce groupe. D'ascendance irlandaise mais née à Melbourne, fréquentant les diverses communautés d'émigrés et jouant du yangqing, un instrument chinois, parfois chantant dans des langues inventées, Lisa est l'artiste de mille endroits. Dans le roman La mort peut danser, ce ne sont pas les lieux qui divergent, puisque l'action se déroule en Irlande, mais les époques. On y suit les aventures parallèles d'une druidesse gaélique en 1181 et de la chanteuse Alice, qui est un anagramme de Lisa, 800 ans plus tard. Et on y découvre le lien mystique qui les unissent. La musique a en commun avec la littérature imaginaire qu'elle nous transporte. Transporter est ce qui permet de passer d'un lieu à un autre si l'on ne fait pas l'effort de se déplacer par soi-même, comme lorsqu'on lit un roman ou qu'on regarde un film. Le mouvement en soi est déjà une promesse d'aventure. Le voyage, très commun dans les littératures de l'imaginaire, en est la traduction romanesque. Très prisé des romans d'initiation, le voyage est porteur d'une symbolique forte, celle de la transformation. La musique de Dead Can Dance est une invitation au voyage sous toutes ses formes. Leurs titres sont mystérieux et inspirants, à l'image de leur musique. Musica Eternale, The Cardinal Sin, Mesmerisme, Anabasis ou encore Frontières. Frontière donne son titre au prologue du roman « La mort peut danser ». Frontière comme pour marquer la distinction entre Lisa Gérard et Brendan Perry, qui constituent à eux deux le cœur du groupe. Elle, on l'a dit, australienne d'origine irlandaise, lui britannique, mais dont la famille a immigré à son adolescence en Nouvelle-Zélande. Australie, Irlande, Nouvelle-Zélande, trois terres d'élection pour le cinéma, en particulier le cinéma de l'imaginaire. Et à propos de Nouvelle-Zélande, vous aurez remarqué que TF1 a décidé de programmer la trilogie du Seigneur des Anneaux en ce mois de juin, dont le dernier opus, Le Retour du Roi, passe à la télévision à l'instant où je vous parle. S'il vous plaît, restez avec nous, on a des cookies. On doit d'ailleurs à ce projet de Peter Jackson cette néo-zélandaise mania dans le monde du 7e art. Peter Jackson, rappelons-le, réalisateur néo-zélandais, a été découvert grâce à sa comédie horrifique hyper trash Brain Dead en 1992, au casting de laquelle on trouve dans un rôle secondaire de Jed Murphy qui incarnera Nori, non pas l'un des 7 mais des 13 nains, dans l'autre trilogie de Peter Jackson, à savoir Bilbo le Hobbit. Alors vous me direz oui, un grand classique de la fantasy avait déjà été tourné en Nouvelle-Zélande. Il s'agit de Willow, avec pour star l'acteur de petite taille Warwick Davis, qui a pour particularité d'avoir joué plusieurs rôles dans la saga Star Wars, depuis le mignon Ewok du Retour du Jedi en 1983, jusqu'au mignon Ewok de l'Ascension de Skywalker, sorti fin 2019. Ah, et puis à l'affiche, il y avait aussi un certain Val Kilmer. Le pays des Kiwis doit ce succès à sa géographie très diversifiée. Des plages paradisiaques, des forêts tropicales, de hautes montagnes, des volcans et des landes dignes des terres irlandaises, le tout parfois distant de quelques dizaines de kilomètres seulement. Une économie non négligeable à présenter aux producteurs lorsqu'il faut déplacer équipe et matériel. Il ne vous surprendra pas d'apprendre qu'on y a tourné Avatar de James Cameron, En eau trouble, une sorte de remake des Dents de la Mer mais avec un mégaloton, ce requin géant préhistorique, et Jason Statham. Le monde de Narnia, ou encore Valérian et la cité des mille planètes. Plus étonnant, la Nouvelle-Zélande a été aussi le tournage du très urbain et asiatique Ghost in the Shell en 2017 avec Scarlett Johansson et Takashi Kitano et Juliette Binoche, Alien Covenant et ses paysages arides, Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise censé se passer au Japon, ou bien le remake de Mulan en live action, c'est-à-dire avec de vrais acteurs dedans, prévu initialement pour le mois de juillet de cette année. Notez que le tournage de Avatar 2 et 3 est sur le point d'y reprendre une fois que James Cameron aura achevé sa quarantaine du Covid-19. Bref, depuis 20 ans, une véritable industrie du cinéma s'est développée dans le pays du rugby qui gagne. Face à la Nouvelle-Zélande, l'Irlande comme terre de cinéma n'est pas en reste. Excalibur de John Borman, Zardoz du même Borman, le Moby Dick de 1965 ou les scènes de bataille de Braveheart qui sont censées se passer en Écosse. Mais l'Irlande s'est aussi attirée des séries telles que Vikings et bien entendu la référence ultime des années 2010, Game of Thrones. Australie, Irlande, Nouvelle-Zélande, les deux artistes de Dead Can Dance sont aussi la Bretagne en commun puisque Brendan y vit et que Lisa a collaboré avec le chanteur breton Dennis Prigent sur le morceau Gortoz Aran que l'on retrouve dans la bande originale du film de guerre Black Hawk Down de Ridley Scott en 2001. L'année précédente, Lisa Gerrard avait participé à la bande originale de Gladiator, toujours de Ridley Scott, bande originale signée Hans Zimmer avec le triste et ascensionnel morceau Now We Are Free. Lisa y utilise sa technique d'idioglossie qui consiste à chanter les sons qui lui viennent intuitivement à l'esprit mais qui n'ont de sens dans aucune langue. Lisa refuse de se laisser enfermer dans la prison du langage. À travers ses écrits, outre l'Irlande, Jean-Marc Ligny nous a emmenés dans les étoiles avec les oiseaux de lumière pour lequel il était récompensé du prix Eiffel en 2001. Au Burkina Faso, avec le prophétique Aquatème, dans une traversée des États-Unis ravagée dans le roman Semence, ou sur les routes du rêve, du virtuel et de l'hallucination, tout au long de sa quarantaine de romans. Quarantaine n'étant pas une allusion aux événements actuels. Son dernier roman, Alliance, est sorti en début d'année chez l'Atalante. Celui-ci non plus ne fait pas l'économie du voyage, puisque ses héros voleront d'Islande au Groenland, puis au Canada, et inversement, et pas forcément dans cet ordre, ceci 300 ans après les âges sombres qui ont vu la fin de la civilisation suite au dérèglement du climat. Lisez-le, de préférence après avoir lu Semence, pour connaître en détail les aventures de Nao Eden ainsi que Exode, qui se déroulent lors de ces fameux âges sombres. N'hésitez pas à revoir l'excellent film d'horreur The Mist de Frank Darabont et sa pelletée d'acteurs qui par la suite joueront et mourront en masse dans la série The Walking Dead. Si les trucages ont assez mal vieilli pour un film de 2008, le reste est du tout bon et particulièrement la dernière scène du film d'un nihilisme rarement atteint, le tout bercé par le magnifique morceau de Dead Can Dance, The Host of the Seraphim. L'imaginaire, c'est aussi une petite musique qui vous trotte dans la tête.
c'était donc Dead Can Dance dans l'imaginaire sur Radio G. On va terminer l'émission avec un très lasé, hein, Arena Blanca, qui vient de sortir son deuxième single Eden. Et donc on vous souhaite un bon été et on se retrouve à la rentrée. Voilà. Sur le 100.5.
Dans le vent, sur nos poitrines frémissant, attend encore juste un instant. Je vais caresser au son. Le bonheur est une chose fragile, instant fugace et volatile, mais s'évapore quand on le touche, ne reste que son parfum en bouche. On croit après nos hommes pères, pourquoi faut-il retoucher terre? Pourquoi toujours qu'il est cru, faut-il toujours te reconstruire? Bien que ça,